Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Prendre ses responsabilités, prendre du recul. C'est donc ainsi que Laurent Wauquiez a annoncé hier sa démission de la présidence du Parti Les Républicains. Quelles en sont les causes et surtout les conséquences? Analyse dès le début de ce journal.
Et puis nous irons ensuite à Bagdad où deux Français doivent être jugés ce lundi encore. Ils sont déjà 9 à avoir été condamnés à mort pour appartenance au groupe État islamique.
Et comment juger ces djihadistes ailleurs qu'en Irak? Aujourd'hui en Suède, une quinzaine de pays vont réfléchir à créer un éventuel tribunal international spécifique.
Emmanuel Macron souhaite remplacer des hauts fonctionnaires qui freineraient ses réformes. Bercy ou le ministère du Travail pourraient être visés. Explication dans ce journal.
Et puis nous visiterons une nouvelle halte d'urgence au nord de Paris. Elle accueille des migrants. Migrants qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Il aura donc tenu une semaine après les élections européennes et le mauvais score de son parti, les Républicains, 8,48%. Laurent Wauquiez quitte ses fonctions de président du parti, annonce faite hier soir lors du journal télévisé de TF1.
Ces élections, c'est un échec. C'est pas facile, mais il faut le reconnaître avec humilité, c'est un échec. On a fait cette campagne tous ensemble, mais c'est moi qui suis le président de notre famille. Au fond, pour le dire assez simplement, les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Et pour répondre à votre question, je me retire de mes fonctions de président des Républicains.
Laurent Wauquiez qui précise qu'il ne veut pas être un obstacle à la reconstruction du parti, alors que toute la semaine dernière, plusieurs figures, les Républicains comme Gérard Larcher ou Valérie Pécresse, ont appelé à son départ ou au minimum à un changement de gouvernance. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service politique de France Culture. La pression était donc trop forte pour Laurent Wauquiez?
Oui, parce que Laurent Wauquiez s'était impliqué personnellement dans la campagne électorale aux côtés de François-Xavier Bellamy. C'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé directement mis en cause dès le lendemain du scrutin avec les appels à la démission des anciens ministres Éric Woerth et Jean-François Copé. De Valérie Pécresse également, moi à sa place, je sais ce que je ferai, a-t-elle dit en substance. Et puis, le président du Sénat, Gérard Larcher, a annoncé qu'il avait l'intention de reconstruire un parti de la droite et du centre. Autrement dit, à l'opposé de la ligne défendue jusqu'ici par Laurent Wauquiez, qui faisait dès lors figure de repoussoir. Mais ce n'est pas pour ça, ou pas seulement pour ça, qu'il rend son tablier. C'est aussi et surtout parce que ces derniers jours, un certain nombre d'élus ont commencé à faire défection. Vendredi, Ludovic Jolivet, maire de Quimper, a fait savoir qu'il quittait les Républicains, tout comme le président de la majorité LR au conseil départemental des Hauts-de-Seine, Éric Berdoati. D'autres ont dit qu'ils se posaient des questions. Enfin, vendredi toujours, une vingtaine de députés LR à l'Assemblée nationale ont annoncé qu'ils quittaient le groupe pour en constituer un autre. Bref, on a là le début d'une vague de départ qui potentiellement peut se poursuivre et s'intensifier dans les semaines et les mois à venir. Et le maintien de Wauquiez et de sa ligne conduisait à entériner et même à accentuer cette dévitalisation du parti.
Et je précise que selon les statuts du parti, en cas de vacances, la présidence du mouvement est assurée par le vice-président délégué, à savoir aujourd'hui Jean Leonetti. Pour la suite, Stéphane, à quoi peut-on s'attendre? C'est aujourd'hui très flou.
Oui, désormais plusieurs questions se posent. Est-ce qu'un changement complet de ligne politique est en mesure d'inverser la tendance? Gérard Larcher et peut-être Valérie Pécresse, sur une ligne plus centriste, réussiront-ils à convaincre tous ces élus de rester? Et surtout, est-ce que les électeurs sont susceptibles de voter pour eux? Parce que c'est la grande question dans la perspective des élections municipales l'année prochaine. Pourquoi voit-on amorcer cette vague de départ? Parce que tous ces élus ont vu, à l'occasion des européennes, que les électeurs de droite votaient soit En Marche pour les plus centristes d'entre eux, soit Rassemblement National pour les plus radicaux. Comme le PS à gauche, LR n'apparaît plus aujourd'hui comme le parti fédérateur à droite. Et dans ces conditions, on peut se demander qui voudra reprendre le flambeau. En tout cas, le parti qui avait porté Nicolas Sarkozy à la présidence en 2007 s'apprête à vivre des semaines et des mois à venir difficiles.
Merci beaucoup Stéphane Robert. Pour le moment, je précise qu'aucune réunion spécifique n'est prévue au sein du parti Les Républicains. Demain soir, Gérard Larcher, président LR du Sénat, avait prévu de réunir autour de lui les présidents du groupe et responsables des grandes associations d'élus, réunion a priori maintenue. L'annonce de ce départ, en tout cas hier soir, a été saluée à droite et à l'extrême droite également. Marine Le Pen dit déjà tendre la main à tous les cadres et les électeurs, les Républicains patriotes. Là aussi, les élections européennes font vaciller un parti. En Allemagne, après le score historiquement bas des sociaux-démocrates, moins de 16%, la chef du SPD, Andrea Nahles, abandonne ses fonctions. Ce départ précipité pourrait accélérer la fin du gouvernement de coalition avec les conservateurs de la CDU. Deux nouvelles condamnations à mort ont été prononcées hier à l'encontre de Français en Irak. Deux hommes âgés de 32 et 28 ans. Ils ont été reconnus coupables d'appartenance au groupe État islamique. Cela porte donc à 9 le nombre de Français condamnés à mort par la justice irakienne en une semaine. Leurs procès sont dénoncés par des ONG, notamment à cause de l'emploi de techniques de torture. Ce lundi, deux autres Français seront donc présentés au tribunal antiterroriste de Bagdad. Nous retrouvons notre correspondante dans la capitale irakienne, Céline Martelet. Aujourd'hui encore, les audiences devraient être rapides.
Pas plus d'une heure, très probablement. Le temps pour les juges de lister les charges retenues contre les deux djihadistes. L'un d'eux, âgé aujourd'hui de 40 ans, est un vétéran du djihad et au sein de l'État islamique, il aurait exercé les fonctions de juge auprès des très redoutés tribunaux islamiques, ceux qui ont ordonné des exécutions, des lapidations ou des mutilations à Raqqa et Mossoul. Les deux Français auront ensuite quelques minutes pour s'expliquer. Une prise de parole debout, dans une tenue jaune, derrière les barreaux en bois d'une cage. Présent à chaque procès, un représentant de l'ambassade de France, installé discrètement sur un banc, il ne prend jamais la parole. Ces procès de djihadistes étrangers attirent du public, des avocats, des policiers. Et pour assurer la défense des deux Français tout à l'heure, des avocats irakiens commis d'office, des avocats qui seront désignés ce matin par le juge. Ils n'auront que quelques minutes pour lire le dossier d'instruction et s'entretenir avec leurs clients éphémères. Quelques minutes pour préparer la défense d'un très probable condamné à mort.
Merci Céline Martelet. Ce matin, dans une tribune chez nos confrères de France Info, 44 avocats dénonce ses condamnations à mort, évoquant un immense déshonneur pour la France. Comment faire alors pour juger ces djihadistes, les rapatrier en France ou bien les traduire devant un tribunal international spécifique? Hasard du calendrier, aujourd'hui doivent se retrouver des représentants de plusieurs pays à Stockholm pour évoquer ces questions, Frédéric Faux.
Des représentants d'une quinzaine de pays, dont la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et tous les pays scandinaves, se retrouvent aujourd'hui à Stockholm pour discuter de l'éventuelle création d'un tribunal ou d'un mécanisme légal qui permettrait de juger les terroristes de l'État islamique sur place, en Syrie ou en Irak. Cette première réunion se tient à l'initiative de Mikael Damberg, le ministre suédois de l'Intérieur, qui s'est déjà rendu dans plusieurs capitales européennes à ce sujet. Selon lui, beaucoup plus de suspects pourraient être jugés et condamnés si un tel tribunal était installé dans la zone de l'ancien califat, au plus près des témoins et des preuves. La Suède a vu 300 de ses habitants se rendre en Irak et en Syrie. 50 ont été tués, 150 sont déjà rentrés et une centaine d'autres pourraient le faire. Mais la plupart ne peuvent pas être poursuivis par les lois aujourd'hui en vigueur dans ce pays. Cette solution d'un tribunal international intéresse donc la Suède, mais aussi beaucoup d'autres États européens dont les ressortissants, partis semer la terreur, sont pour l'instant enfermés dans des camps gérés par les forces kurdes.
Enfermés pour beaucoup en Syrie. Sur place, les bombardements par ailleurs se poursuivent. Par deux fois hier, Israël a tiré des missiles tuant 11 soldats du régime, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Notons également qu'une voiture piégée a explosé dans la ville d'Azaz à la frontière avec la Turquie. Le bilan fait état d'au moins 17 morts et une vingtaine de blessés. C'était une décision correcte. Voici comment la Chine défend encore, 30 ans après, la répression sanglante des manifestations de la place Tiananmen à Pékin. Pékin qui mentionne rarement l'événement. Dans la nuit du 3 au 4 juin 89, des révolutionnaires, leaders étudiants, étaient massacrés par des soldats du régime communiste. La Croix-Rouge chinoise évoque 2700 morts cette nuit-là. Depuis, la Chine interdit à ses habitants d'en parler, de l'évoquer même, mais certains officiers ou soldats de l'armée chinoise disent aujourd'hui regretter cette intervention. Notre correspondante Dominique André a rencontré l'un d'eux.
Li Xiaoming brise le tabou. Ancien lieutenant dans les troupes de la loi martiale qui a réprimé les manifestants de la place Tiananmen, l'ex-officier a pris récemment la parole dans une conférence internationale qui s'est tenue à Taïwan. L'homme pleure en évoquant le massacre du 4 juin. Li Xiaoming apporte un nouvel éclairage sur les états d'âme de militaires quand ils ont reçu l'ordre d'intervenir dans la nuit du 3 au 4 juin.
Avant le 3 juin, les ordres qu'on avait reçus étaient « Vous ne pouvez pas tirer sur les gens. Si vous tirez sur eux, vous serez responsable devant l'histoire. » Mais tout a complètement changé après le 3 juin. Les officiers de haut rang et le gouvernement ont demandé à toutes les troupes de se diriger vers la place Tiananmen, ce qui voulait dire qu'il y avait ordre de tirer sur les gens. Pour moi qui servais en tant qu'officier dans l'armée, j'ai honte de ce qu'a fait l'armée. 30 ans après, à cette date précise, je me sens mal en pensant aux gens qui ont été tués. J'ai guéri, mais ça a été très dur.
Pour l'ancien lieutenant, il est temps que le gouvernement accepte de faire face à l'histoire. Mais 30 ans après, la répression sanglante du mouvement pro-démocratique de 1989 est l'un des sujets les plus tabous qui soit en Chine.
Dominique André, notre correspondante à Pékin. Des nouvelles nous viennent ce matin du Soudan. Selon le mouvement de contestation, des militaires tentent de disperser leur rassemblement par la force. Depuis deux mois maintenant, des civils campent devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Ils réclament toujours le transfert du pouvoir en leur faveur.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal dans les matins. Le projet de loi d'orientation sur les mobilités arrive à l'Assemblée nationale cet après-midi.
Cela faisait 35 ans depuis la loi Loti qu'il n'y avait pas eu de grande loi sur les transports en France. Ce sera bientôt chose faite. Le gouvernement promet une augmentation de 40% des investissements pour améliorer les transports au quotidien en privilégiant des modes propres, petites lignes de train, covoiturage et vélo. Au chapitre politique encore, revenons sur cette ambition affichée d'Emmanuel Macron de remplacer les hauts fonctionnaires jugés récalcitrants. Ce qui, selon le président de la République, freine ces réformes. Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, Olivier Dussopt, s'en explique.
Nous avons parfois des expressions sur tel ou tel cadre qui serait recalcitrant à la mise en œuvre d'une politique. C'est extrêmement rare et plus souvent ce sont des cadres qui occupent le même poste depuis longtemps, peuvent parfois être aussi en désaccord avec les orientations que sont les nôtres. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que sur ces postes de direction, nous puissions nous appuyer pour aller plus vite et pour aller plus loin. Il ne s'agit pas de réserver les postes de hauts fonctionnaires à des hommes ou des femmes qui pensent strictement comme le président de la République ou comme les membres du gouvernement. Il s'agit de faire en sorte d'avoir des hommes et des femmes qui soient mobilisés et motivés.
Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Que faut-il comprendre derrière cette annonce? Des personnes seront-elles vraiment évincées de la haute administration?
Oui, certainement. Combien? Lesquels? En coulisses, il se murmure que ce pourrait être à Bercy, peut-être au ministère du Travail aussi. Des hauts fonctionnaires dits donc récalcitrants. Mais y a-t-il vraiment des récalcitrants dans la haute fonction publique? Pas franchement, nous dit une source à Bercy pour qui le président Macron cherche simplement à jeter des têtes à la vindicte populaire. Et c'est à peu de choses près l'analyse de Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et professeur à la Sorbonne.
Il y a une volonté probablement de montrer que le gouvernement prend la main et que s'il y a eu des échecs par le passé, ça ne vient pas de la volonté politique, ça vient de l'administration. C'est très facile, si vous voulez. Il est évident qu'on est dans la communication politique, on est dans la démonstration d'une forme de volontarisme politique en s'attaquant de façon un peu facile à une classe qui apparaît relativement impopulaire.
Et même si les nominations de dizaines de hauts fonctionnaires relèvent du pouvoir de l'exécutif et qu'il est donc là dans son bon droit, la manœuvre n'est pas sans danger.
C'est évidemment risqué parce que la haute fonction publique reste fondamentalement disciplinée et est un élément essentiel dans les rouages de l'État. Si demain Emmanuel Macron veut continuer à gouverner en bonne intelligence avec elle, la prendre comme un peu bouc émissaire, c'est évidemment créer des oppositions. Et ça, pour un gouvernement qui manque de militants, qui manque de ressources humaines du point de vue du parti, ça peut devenir très rapidement un gros problème.
Depuis plus de deux ans, Emmanuel Macron affiche sa volonté de remplacer plusieurs hauts fonctionnaires, mais il n'a jusqu'ici pas vraiment mené de remplacement de grande ampleur. Au bout d'un an et demi d'exercice, il avait même nommé moins de nouveaux directeurs d'administration centrale que ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy.
Rosalie Lafarge pour ses précisions. L'Observatoire international des prisons dénonce une omerta et une impunité. Dans son rapport publié ce matin, l'OIP évoque des violences en prison par des surveillants sur des détenus. Il a reçu près de 200 signalements ces deux dernières années. Un bateau humanitaire bloqué au large de la Tunisie, faute de moyens pour accueillir ses passagers migrants. Un autre bateau, le Sea-Watch, autorisé à reprendre la mer et ses sauvetages. La crise migratoire n'est pas terminée. Et ce matin sur France Culture, nous vous emmenons au nord de Paris, arrivé pour certains réfugiés qui ont traversé l'Europe. En fin de semaine dernière, une halte d'urgence pour les migrants a ouvert près de la porte de La Chapelle. Elle est financée par Paris et par la ville de Saint-Denis. Hugo Lanoë s'est rendu sur place pour France Culture.
Coincé entre un dépôt de déchets et des bâtiments industriels désaffectés, c'est ici, avenue du président Wilson, sous le vrombissement du périphérique, que se trouve la halte d'urgence. À quelques mètres, tentes et campements insalubres composent le paysage. Passé un portail métallique, nous y sommes. Une grande salle accueille des dizaines de migrants. La plupart rechargent leur téléphone portable. Parmi eux, Abdoulaye Saïd, 25 ans, exilé somalien.
Je suis journaliste de formation, mais la situation sécuritaire dans mon pays n'est pas bonne. Il y avait trop de problèmes à cause du terrorisme et des islamistes Chebab. Avant, je vivais dans mon pays, j'avais un travail et une bonne vie. Maintenant, je vis dans la rue, sans emploi. J'ai une vie très difficile.
Pour adoucir ce quotidien, thé, café, salle de repos sont à disposition. Le centre, ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 19h, sent encore la peinture fraîche. 10 toilettes, une douzaine de douches, un service de buanderie et un box paramédical visent à assurer les besoins les plus élémentaires. Marie Cougoureux, coordinatrice à la Fondation de l'Armée du Salut.
On est complètement sur un dispositif d'urgence humanitaire, accès à des droits fondamentaux, à l'hygiène, à la santé. On n'est pas du tout en train de solutionner la problématique des campements. Pour les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables, on essaie de mettre en place un circuit court entre nous et l'hôpital de Bichat et de pouvoir, s'ils le souhaitent, envoyer les personnes les plus vulnérables rapidement, mais les accompagner aussi avec des bénévoles.
France Terre d'Asile, le SAMU Social de Paris ou encore Action contre la faim, tous assurent des permanences. Il faut dire que les besoins sont grandissants. L'affluence n'a cessé de croître depuis l'ouverture de la halte, mardi dernier.
Le temps de ce lundi, il sera essentiellement marqué par le retour des nuages et de pluies fines de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Grand Est. Les averses parfois orageuses s'atténueront en fin de journée sous des températures en baisse. Comptez ce matin 16 degrés à Lille, 18 à Paris, Rennes, Bordeaux, 22 à Marseille, 25 degrés tout de même encore ce matin à Besançon et à Lyon.